Donc, je vais tout de suite donner la parole à Bertrand Evenot, qui est président d'honneur de la Société littéraire des Amis d'Émile Zola, par ailleurs ancien éditeur et spécialiste des questions de photographie. Il va nous parler, le titre s'affiche sur l'écran, de ceci, Profondeur de Zola, photographe. Bertrand, à vous la parole.
Voilà, merci beaucoup Alain de cette introduction chaleureuse. Effectivement, je suis un zolien un peu amateur à côté des grands savants qui participent à ce colloque ou des grands spécialistes, mais en tout cas je connais bien la photographie et c'est la raison pour laquelle je suis heureux de parler de Zola photographe. La question qui se pose toujours pour un écrivain qui se lance dans l'activité photographique, c'est de savoir quel est le sens de cette activité pour lui. Souvent, c'est une activité très secondaire et très anecdotique, ou bien ça peut être une activité profonde, et certains écrivains, dont Zola à mon avis, côtoient les grands photographes, et en tout cas ont une démarche de grand photographe. Je mets tout de suite cette image que je trouve très belle de Zola devant sa chambre, tenant une plaque qui manifestement est une plaque de verre. Et tout le monde la voit, hein, je n'ai pas de retour sur les échos, si vous me dites s'il y a un problème. Et on voit que Zola, quand il pratique la photographie, il la pratique très sérieusement. Nous sommes là à Médan, et nous avons cette chambre classique, chambre photographique. Comment Zola a-t-il rencontré la photographie? Tout le monde le sait parmi les historiens, c'est en août 88, lors de vacances à Royan. Un de ses amis, maire de Royan, je crois, l'initie. Nous sommes au moment où les Rougon-Macquart sont presque achevés et où une autre phase de sa vie va s'ouvrir. Et s'il avait déjà fréquenté des grands photographes, notamment Nadar, qui a été son ami, Karja, ce n'est qu'à partir de 94-95 qu'il va pratiquer la photographie et il le fera vraiment intensément. Deuxième image, je montre ici. C'était publié par Massin dans le livre qui a été fait avec le docteur François-Émile Zola. C'est l'état des appareils photographiques que Zola possédait à sa mort et qui ont été transmis à sa famille. Alors tout de suite, un point intéressant sur le plan de la compréhension et de la recherche. Nous avons là des appareils photo, je dirais des années 1900, un peu avant 1900, un peu après 1900. Il y a beaucoup d'appareils qui sont utilisables seulement à la main, même s'il y a des trépieds. Certains sont tout petits, on voit des espèces d'appareils, je ne sais pas si le point rouge ici, qui sont des petits appareils vraiment de travail à la main. D'autres sont plus, bien sûr, des appareils sur pied. Mais ce qui est important à noter, c'est qu'ils sont vraiment différents de la grande chambre. Autrement dit, nous avons chez Zola deux types de pratiques photographiques. Une pratique à la chambre archaïque, j'allais dire, ancienne. La chambre qui est sur cette photo que vous avez à l'écran est une chambre telle que l'utilisaient les grands photographes du début, c'est-à-dire les Poitevin, les Nadar, etc. Une chambre des années 1860, pour simplifier. Alors que les appareils photos que nous avons là sont des appareils photos aux environs des années 1900, un peu après et un peu avant et un peu après. Donc voilà le type d'appareil. Alors Zola fait les choses très sérieusement, comme tout, quand il fait quelque chose, il le fait très sérieusement. Et nous avons quelqu'un qui prend des photos avec souvent un système. Vous voyez là, ici, Zola est en train d'une photo. Je pense que c'est Jeanne, mais je n'en suis pas sûr, parce que si c'était Jeanne, ce ne serait pas à Médan, mais si c'est à Médan, ça n'est pas Jeanne. En tout cas, vous pouvez voir qu'il y a un grand écran blanc, il y a une pose qui est posée, il y a des tas d'appareils qui sont au sol, ou qui sont à côté, il y a cette fameuse chambre archaïque dont je parlais, et il y a Zola en train de prendre la photo. Donc on note quelque chose d'extrêmement travaillé, ça n'est pas une photographie à la main levée d'amateur, c'est une photographie construite et conçue, en tout cas au niveau des appareils. De même, si je prends cette dernière photo, nous avons ici Zola avec un tablier de chimiste, et en train de regarder dans une éprouvette, l'état sans doute d'un bain ou d'un développement, pour si c'est un film, mais je crois que c'est plutôt un bain pour développer des plaques. Il y a beaucoup de plaques de verre dans les œuvres de photographiques de Zola. Et on voit donc que nous avons quelqu'un qui s'est vraiment investi techniquement, j'allais dire, dans la photographie, beaucoup d'appareils, maîtrise de la chimie, recherche des virages. Il y a des épreuves qui sont virées en bleu, d'autres qui sont virées en rose, etc., etc. Deuxième aspect des choses, où situer Zola comme écrivain, comme photographe? Je pense que vous avez eu dans l'histoire de la littérature un certain nombre, dès l'instant où la photo a été inventée, un certain nombre de personnes, des écrivains, ont pratiqué la photographie. Célèbres, bien sûr, Flaubert et Maxime Ducamp, c'était plutôt Maxime Ducamp le photographe et non pas Flaubert. Célèbre également Pierre Loti, bien connu. J'ai cité aussi souvent un russe, Léonid Andreïev, par exemple, un écrivain russe de la fin du siècle. Lewis Carroll, l'écrivain anglais, auteur d'Alice au pays des merveilles, a aussi pratiqué la photographie. Mais Zola le dit lui-même, il y a une citation de lui qui dit « C'est un passe-temps formidable, j'y consacre beaucoup de temps, il a dit « C'est mon violon d'Ingres ». Donc il y a cette espèce d'honnêteté consistant à dire « Je suis un, d'abord écrivain, bien sûr, deuxièmement, je suis photographe, c'est mon violon d'Ingres ». Alors, est-il un photographe, entre guillemets, à violon d'Ingres, ou est-il un photographe plus profond? Je pense personnellement qu'il est plus profond. Et on verra dans un certain nombre d'images que je vais vous montrer qu'en fait, Zola va beaucoup plus loin que la simple photographie, disons à la Pierre Loti pour simplifier, qui est une photographie bourgeoise d'amateur qui photographie son environnement, son mobilier, ses intimes, ses voyages, ses déguisements pour Pierre Loti. Donc une photographie de l'entour de soi, une photographie de la famille. Au contraire, Zola a une approche beaucoup plus ouverte. Et en tant que praticien, je voudrais vous montrer quelques images de Zola comparées à des grands noms de la photographie pour vous montrer qu'il a quelque chose en lui, il y a un vrai regard. Première image, vous avez ici à droite une photographie de Zola prise à Londres pendant l'exil de Londres. Vous avez à gauche une photographie très connue de Henri Cartier-Bresson prise au Palais-Royal. Ce que je voudrais souligner, je ne dis pas qu'Henri Cartier-Bresson a copié Zola, ni que Zola est du niveau de Cartier-Bresson dans l'histoire de la photographie, mais nous avons là quelque chose de l'ordre de la même technique, c'est-à-dire que Zola admet que le sujet, ce n'est pas tellement ce qui se passe, c'est plutôt le feuillage, donc il accorde une place énorme au feuillage, de même que Cartier-Bresson, et d'autre part, il a ce réflexe photographique classique qui consiste à avoir un trou blanc dans l'image et à attendre que quelqu'un passe pour le remplir. Cartier-Bresson, c'était un passeur qui fait un écart de compas avec ses jambes, et pour Zola, c'est le passage de ce fiacre. Donc on a vraiment une même logique de construction photographique. Deuxième exemple, toujours Cartier-Bresson à gauche et Zola à droite. Cartier-Bresson, c'est une photo donc de neige et de balayeur de la neige. Il joue sur les deux ronds, Cartier-Bresson, et sur la posture du gaillard qui a le pied levé, le douanier. Zola joue exactement la même chose, c'est-à-dire que sa photo est construite. Il y a un point d'appui, c'est le personnage debout, les mains dans les poches avec les boutons dorés. Et il y a un rythme qu'il a imposé en prenant le bon moment où les balais sont en mouvement et où il y a des lignes de construction de l'image. Je prendrai un troisième exemple pour vous montrer la qualité du regard photographique chez Zola. Vous avez ici, à droite, Zola toujours, à gauche, une photo d'André Kertész. André Kertész, sa photo est certainement des années 1930, donc bien après Zola. Mais regardez comme Zola, ainsi que Kertész, ont le souci de construire l'image avec cette grande courbe de la Tour Eiffel, une vue plongeante. Ça n'est pas une vue si simple à faire, il faut se pencher, il faut être au bon endroit, il faut cadrer correctement, il faut jouer sur les lignes, bien sûr, de la construction métallique, jouer aussi sur les lignes au sol que représentent les allées blanches de gravier, etc. Même effort de construction. Encore un exemple, à droite, toujours Zola, à gauche, vous avez une photo très connue d'Alfred Stieglitz, qui est un photographe d'origine luxembourgeoise mais américain, qui est une rue de Paris pour Stieglitz, qui est la place Clichy pour Zola. Même chose intéressante aussi à noter, c'est que les deux photographes, et Zola pour ça est de très bon niveau, considèrent que le sujet photographié, c'est avant tout la lumière sur le sol. De même que la pluie pour ça est merveilleuse, parce que la pluie permet d'avoir des reflets et des qualités de vibration au sol qui sont magnifiques, et Zola joue de ceci avec beaucoup d'effets et beaucoup, je crois, de réussite. Dernier exemple, alors on va voir ça, c'est les autres techniques. Voilà une photo magnifique de Médan, une photo panoramique. Le panoramique suppose un appareil très particulier qui accepte des plaques de verre longues ou des films longs et qui a un système de rotation de l'objectif. voilà un très beau panoramique de Médan et je vais rester là-dessus pour développer un peu quelques idées. Alors donc, Zola a un œil, il ne fait pas que documenter son monde, sa vie et ses proches, et je pense personnellement que sa pratique est celle d'un grand visuel. Et en fait, quand on, dans l'histoire de la photographie, on peut comparer les photographies de Zola à celles de Degas, par exemple, qui est un grand cadreur, vous le savez, de manière originale, ou celle de Bonnard, qui a beaucoup photographié son épouse et son modèle. Mais Zola est en plus quelqu'un qui a pensé les enjeux de la photographie. Il a pensé la construction graphique, il a pensé les effets de matière. La voyez ici à nouveau, c'est une photographie de Zola au bord de Seine. Il a pensé la construction, cette construction est magnifique. Il a pensé aussi les détails de rime. Voici deux photos de Zola. Ces photos de Zola prend deux fois la photo qui est à peu près la scène proche. Mais regardez comme la photo de droite est totalement réussie par rapport à la photo de gauche. La photo de gauche est anecdotique, elle est pas mal, mais elle est anecdotique. La photo de droite, vous avez un vrai œil qui construit des rimes entre le cou des cygnes, le cygne blanc, le cygne noir, et la forme ici de l'arrière de la barque, et qui fait que nous avons des rimes graphiques. Ça, c'est très caractéristique d'un bon photographe, d'un excellent photographe, qui sait de quoi il parle, qui sait ce qu'il fait, construire avec des rimes graphiques. En outre, d'autres éléments, voici par exemple une audace de Zola, c'est une photo prise à Rome lors de son voyage à Rome, un cadrage complètement inhabituel, presque un cadrage à la Degas justement, avec cet effet de cloche, de colonne, et puis ces personnages, et notamment un personnage père-enfant ici manifestement, peut-être cela a-t-il été un déclencheur pour lui, nous ne ferons pas de psychanalyse au passage. Dernier élément de connaissance par Zola de ce que c'est qu'une photographie, c'est le travail sur les objets. Vous avez là des photos, une puis une autre, prises à Londres, au moment de l'exil londonien, et voyez que Zola est fasciné par l'objet en tant que tel, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de prendre comme un reporter une scène, il en a fait d'autres, on voit passer des kidam, etc. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la fascination pour l'objet, qui est de l'ordre de la fascination pour les reflets de l'objet, pour les formes rondes qui s'accumulent, comme on voit ici, etc. Et on a quelque chose qui se rapproche en réalité de la façon dont les surréalistes ensuite vont travailler la photographie avec des effets de mystère considérables sur la photographie. Je vais vous citer une phrase que j'ai trouvée chez un écrivain totalement éloigné de la photo, mais qui parle de Proust. Proust parle de la nécessité d'arriver au cœur des choses, au cœur des objets, dont l'aspect extérieur n'est en fait, ouvrez les guillemets, qu'un couvercle. Mais chez les grands peintres, là il parle de Proust et des grands peintres, chez les grands peintres, le couvercle est toujours soulevé et on va voir en dessous le bœuf écorché de Rembrandt, ce qu'on en voit, ce ne sont pas les muscles et la viande et les os, c'est l'âme. Je crois que ça c'était une réflexe très photographique que Zola possède en plein, qui est d'avoir une attention au réel, à certains mystères de l'objet, si vous voulez, être attentif non seulement à la réalité des choses, mais à la possibilité de métamorphose que représente la photographie, puisqu'on voit quelque chose qui est de l'ordre du réel, mais on scrute et on voit aussi par-dessous quelque chose qui est de l'ordre du mystère ou qui est de l'ordre de l'âme, comme il est dit pour Rembrandt. Donc c'est une attention au réel et une transposition en art. Alors c'est un point important pour qui veut réfléchir à la photographie. Si vous voyez, la photographie n'est pas comme les autres arts visuels, peinture, sculpture, dessin, aquarelle, etc. Un art où la retouche permet de faire vraiment ce que l'on voulait. La photographie, on est un peu esclave de la prise de vue. La prise de vue avale le réel. Bien sûr, on peut choisir, on peut cadrer, on peut éliminer certains éléments, mais il faut, avec une extrême attention, arriver à mettre un ordre artistique dans un désordre du réel. Ça n'est pas facile, et c'est comme ça qu'on peut y arriver quand on est un bon photographe. Et pour ça, Zola est remarquable. Il y a une citation de lui qui est très souvent citée dans les histoires de la photographie. Il dit « Je crois profondément qu'on ne peut pas dire qu'on a vu une chose, qu'on a vu vraiment une chose avant de l'avoir photographiée. » C'est une phrase qui va très très loin quand il y réfléchit. Elle n'est pas banale, elle n'est pas superficielle. Elle dit simplement que Zola a un vrai regard très aigu de vrai photographe qui sait aller jusqu'au bout des choses et qui sait faire émerger en quelque sorte la signification profonde des images des images qu'il construit. Voilà ce que je voulais dire sur la profondeur de Zola dans un premier temps. Donc, il est penseur de la photographie en même temps qu'acteur de la photographie. Comme acteur de la photographie, il est d'un bon niveau, d'un très bon niveau même. Il se confronte aux grands artistes de cet art. Et il est quelqu'un qui a réfléchi à la photographie. Et il y aurait certainement à faire une synthèse de Zola visuel, Zola grand voyant, grand capable à la fois dans des textes de faire des descriptions. Là, je renvoie aux spécialistes des Rougon-Macquart qui sont extrêmement fortes et vivantes. Je pense au Forgeron. Je crois que c'est dans l'Assommoir, le forgeron à barbe dorée. Je pense bien sûr à la description du bonheur des dames, les rayons de féminin, etc. Enfin, on a chez Zola un très grand visuel. Il est aussi un très grand visuel en photographie et quelqu'un qui a pensé la photographie. Alors, je voudrais aller maintenant un peu plus loin dans cette réflexion en vous montrant la question de ses rapports. Voilà une dernière photo qui fait la soudure, si vous voulez. C'est une photo de Jeanne, bien entendu. Ce que je trouve admirable, si vous voulez, c'est que là, il y a un effet de surexposition délibérée de la part de Zola qui fait que, d'une part, la masse des cheveux, mais surtout les rayures noires du vêtement que porte Jeanne font une construction graphique tout à fait remarquable, avec ce grand carré sur le corsage, avec ce croisillon sur le cou, et puis cette masse noire des cheveux. On a là quelqu'un qui sait construire. Mais j'en viens donc à la photographie intime. Nous savons que la période où Zola a pratiqué la photographie est concomitante avec, évidemment, le début de sa relation avec Jeanne, la naissance des enfants, etc. Et il y a énormément de photos prises par Zola autour de Jeanne et des enfants. Je pense qu'il y avait là un phénomène de fixation psychologique, puisque pendant l'absence, pendant les moments où il était éloigné d'eux, il pouvait, grâce à la photographie, revivre ces éléments. Et donc, il avait une fascination et une grande capacité d'enregistrement de la vie familiale avec Jeanne et les enfants, avec un bonheur certainement constant. Je pense que c'est la partie la plus connue, en tout cas des Zoliens, et aussi beaucoup des corpus de photographie de Zola. On a énormément de très belles photos de Jeanne avec les enfants, de Jeanne avec Zola. Voici deux photos un peu assez extraordinaires, je trouve, où Zola se met en scène avec Jeanne, avec toujours cette attitude chez lui qui consiste, lorsqu'il y a soit les enfants, soit Jeanne, soit Alexandrine, à ne pas être au premier plan, à ne pas être le sujet majeur, à se mettre en quelque sorte dans l'image, en position, j'allais dire, de donataire, d'offrant, vous savez, comme dans ces tableaux où on voit une scène religieuse, et puis il y a les donataires qui sont à genoux à côté et qui sont en prière devant la Vierge ou un saint ou peu importe. Et donc on a là ce même phénomène. Zola est un peu en retrait. Il vient poser, mais il vient poser en retrait par rapport au sujet majeur qui, pour lui, bien sûr, est la femme qu'il aime et qu'il étreint, et il échange des serments de main. Autre obsession de la part de Zola, certainement, c'est le corps de Jeanne. On a une série de photos absolument magnifiques, notamment de la nuque de Jeanne, de ses cheveux tombés ou de ses cheveux en chignon. On voit bien qu'il y a quelque chose là de l'ordre de la répétition qui est très caractéristique de ce qu'est un photographe. Un photographe est très souvent un peu voyeur, très souvent un peu obsessionnel, je parle des autres, hein, mais Zola l'est aussi à sa manière, et on le voit ici. Autre élément, et ça c'est très intéressant, c'est les photos des enfants. Je n'en ai pris que quelques-unes. On voit que pour les enfants, c'est pratiquement le seul cas, avec une dernière que je montrerai aussi, où il y a une énorme spontanéité dans la prise de vue. Et donc, on voit que là, il fait courir les enfants, il les fait courir vers lui. Ça n'est pas le même jour, puisqu'on voit que Denise ne porte pas la même robe, même si apparemment Jacques a le même costume marin, mais pas les mêmes chaussettes. Enfin, en tout cas, voyez, on voit à quel point il est content de laisser vivre ses enfants, de les faire courir vers lui. Et vous savez que cette image d'un enfant qui court vers vous est un topos classique de la photographie. Il y a beaucoup de chefs-d'œuvre de la photographie qui représentent ce topos d'un enfant qui se précipite vers celui qui prend la photo, et donc pour nous, qui se précipite vers nous qui regardons la photographie. Donc une photo très émouvante et qui est mise dans le fameux album dont voici la couverture, et qui représente pour moi là, donc la dimension intime du travail de Zola autour de Jeanne, autour des enfants. Et voici cette couverture. Je sais que ce passé récemment en vente, cet album a été préempté, Dieu merci, par une institution publique. Je ne sais plus si c'est Orsay ou la BN, peu importe. Ce que je trouve intéressant là, c'est que Zola, il s'agit de l'été 97. Hein, c'est le dernier été avant le choc que va représenter en février 98 le J'accuse. Zola a fait un très bel album, très travaillé, avec des mises en page à sa façon, etc. Et il a fait relier le tout dans un album. Et ce qui est extraordinaire, c'est le lien entre cet album et un livre, en réalité. Ceci ressemble à un livre parce que nous avons les fers, nous avons les liens ici, etc. Nous avons la façon de le relier, en quelque sorte. Bien sûr, il y a un fermoir, la photographie, les albums photographiques ont un fermoir. Et surtout, il y a cette chose extraordinaire, la façon de le mettre, le titre fait par Zola, Denise et Jacques, histoire vraie, j'insiste sur cette histoire vraie, par Émile Zola. Et ce par Émile Zola, évidemment, ouvre un abîme de réflexion, parce que quand il sortait un livre, c'était Germinal par Émile Zola. Là, ça n'est pas un livre, ce sont deux enfants. Et il y a marqué « histoire vraie », donc ça n'est pas une histoire inventée, c'est bien une histoire de sa vie. Et Zola est triplement auteur, si vous voulez, dans cette affaire. Il est auteur des photographies, il est auteur des enfants, si je puis me permettre ce raccourci, et il est également auteur de cet album qui ressemble à un livre comme ceux dont il est l'auteur quand il est écrivain. Donc cet album, pour ça, est un élément extrêmement important, une espèce de point focal du rapport de Zola à la photographie. Alors, je voudrais maintenant arriver au phénomène des mausolées. J'appelle ça des mausolées. Disons qu'on peut parler de composition monumentale, un peu méditative, et qui pour moi représente la question de l'écrivain face à sa vie dans une position de méditation personnelle. Il y a 5 ou 6 images où Zola organise des mises en scène photographiques. Vous voyez là un bouquet qu'il a organisé, programmé, qu'il a mis devant un linge ou devant un rideau, je ne sais pas, qu'il a photographié. Et au dos de ce bouquet, ou joint à ce bouquet, un petit mot d'affection à Alexandrine, qui à ce moment-là, je crois, fait un voyage à Rome, est un peu en froid psychologique avec Émile Zola. Et donc, il lui envoie un bouquet charmant, sous forme de photographie. Il n'envoie pas le bouquet, il envoie la photographie du bouquet et un texte. Donc c'est un goût que je note chez Zola de composition, de mise en scène photographique, d'installation, pourrait-on dire, des méditations composées. Il n'est pas le seul à avoir fait ça. Je n'ai plus retrouvé l'image, mais Victor Hugo, par exemple, à Guernsey, avait fait des assemblages comme ça, où on voyait certains livres de lui photographiés, refotographiés dans une espèce d'arrangement. Et c'est ce que fait Zola, y compris avec soi-même, mais on va voir les livres un peu plus tard. Voilà une photographie prise par Zola, où vous reconnaissez le petit Zola à 4 ans, un daguerréotype tel qu'il était encadré et tel que le cadre a été conservé par la famille. Je ne sais pas si le cadre vient de Zola personnellement ou d'autres. Et vous avez une composition faite par Zola. Il a donc posé ce grand cadre, doré avec la petite photo d'aguerréotype. C'est difficile de photographier un daguerréotype, vous savez. Il l'a posé sur des livres. Il y a donc là 2 livres qui sont à plat, qui sont des livres de Zola, bien sûr. Il a mis un bouquet de fleurs, il a mis des marguerites, il a mis des feuillages derrière. Il a fait une espèce de méditation sur ce qu'il était enfant, ce qu'il est devenu aujourd'hui au moment où il prend la photographie. Et voilà un de ces premiers que j'appelle des monuments, compositions monumentalisées ou méditatives, espèce de mausolée de l'écrivain face à sa vie. Mais il y a plus beau et il y a plus profond. Donc revoici la base de départ et ensuite vous avez vu l'arrangement qu'a fait Zola. En voilà un admirable. Alors ça, c'est le fameux daguerréotype de Zola avec son père. Là, il a 7 ans. Son père est proche de sa fin de vie. La photo est magnifique, je ne sais pas qui l'a prise, un photographe d'Aix sans doute. Regardez comme les deux mains jointes ici sont belles et comme les autres mains ici sont bien posées. C'est une photo très bien composée, un daguerréotype. Zola le possédait, Zola ensuite l'a transmis à sa famille. Et voilà comment il le met en scène. une photo qui est véritablement un chef-d'œuvre pour moi, un chef-d'œuvre à la fois de Zola et un chef-d'œuvre de l'histoire de la photographie. Il y a ici un assemblage, donc c'est une photo tardive puisque nous avons là des ouvrages qui sont tous des traductions en langues étrangères de travail, de fécondité et de Paris et peut-être aussi de Rome ou de Lourdes, etc. Donc on n'a que des éditions étrangères, en allemand, en anglais, en italien, je crois qu'il y en avait même une en japonais quelque part, enfin bon, on retrouve les titres. Et sur cet assemblage, Zola a pris soin de poser le daguerréotype le représentant avec son père. Il a fait un léger retrait après les deux premiers livres pour que tout ceci puisse bien tenir, et il a fait cette diagonale magnifique ici, cette espèce de pente qui équilibre évidemment l'image. Si ça n'existait pas, ça ne serait pas beau. Le tout est posé sur un espèce de tissu brodé avec ces phénomènes de volutes. Donc c'est une photographie absolument admirable. C'est une espèce de pyramide, si vous voulez. C'est la pyramide de Khéops, si je puis dire, de Zola méditant sur son travail, son rapport à son père. Je vais venir au livre que Henri Mitran est en train de publier chez Imago, dont je suis très fier d'être l'éditeur aussi. Donc, rapport à son père, rapport à son œuvre, consécration internationale de l'écrivain qui a de multiples traductions étrangères, le tout organisé dans une espèce de pyramide graphique, sensible et photographique, organisée par Zola. Et je trouve ça, c'est une pièce absolument admirable. Alors, non pas par parenthèse, mais pour le signaler à tout le monde, Henri Mitran publie ces jours-ci chez Imago et la Compagnie du Livre Rouge Zola le père, qui est la mort du père, pardon, plutôt, c'est plus important de dire le titre correctement, qui est un livre où Henri Mitran nous livre sa méditation sur les rapports entre Émile Zola et son propre père, et bien sûr les échos qu'il y a repérés dans l'œuvre d'Émile Zola sur les figures de père. Et il y a de nombreuses figures de père, mais pas tant que ça. Il y a des arbres généalogiques. C'est un bouquin absolument admirable. Je remercie Henri de l'avoir produit, de l'avoir écrit, et j'espère que tous les Zoliens pourront en profiter. Je ferme la parenthèse. Donc un mausolée que je trouve personnellement un pur chef-d'œuvre et de la photographie et de la réflexion d'Émile Zola dans sa vie. Autre cas, vous avez ici le même assemblage, enfin pas tout à fait le même assemblage, mais un assemblage différent. Zola fait toujours les choses très bien, il y a un tissu à la base, il y a une espèce de boîte sans doute en laque, il y a un vase de fleurs, il y a des roses, mais les roses, vous voyez, sont légèrement fanées, ce sont des roses, j'allais dire, dans la deuxième moitié de leur vie. Nous retrouvons le petit daguerréotype de Zola à 4 ans. Nous retrouvons la pile des livres, et là il s'agit des livres d'Hérougon-Macquart, on voit les titres, ils sont clairement identifiables. Et puis il y a cette grande médaille d'or qui avait été offerte à Émile Zola, je crois, par la Société des gens de lettres, enfin, de mémoire je ne sais pas, à vérifier. Et il fait cette composition, Zola enfant, Zola célèbre, ayant accompli son œuvre, adossé à son œuvre, mettant en scène son œuvre, et en même temps avec cette jolie délicatesse des fleurs comme ça, toujours une espèce de courbe à droite, la composition est formidable et la netteté de l'image est absolument impeccable. On peut penser à des images comme celle du grand Braun, Adolphe Braun, qui a fait à partir de Mulhouse beaucoup de photographies de fleurs. C'est du même niveau, si vous voulez, mais là c'est pas du tout le même sens, évidemment. C'est à nouveau une méditation sur soi, son œuvre et la façon d'avoir conduit sa vie et réussi sa vie. Autre cas, c'est très intéressant parce que cette grande médaille d'or, je ne peux pas te parler là, je suis en train de faire mon colloque, excusez-moi. Cette grande médaille d'or, qui est d'une belle taille hein, quand on voit la taille des livres, il y a plusieurs versions et voici à nouveau la médaille d'or, cette fois-ci c'est une version je crois plus petite, photographie prise par Zola chez lui avec bien sûr le fameux portrait par Manet qui est au-dessus, et puis il a remis cette médaille ici, je pense que c'est peut-être la version, parce que quand on voit la taille des médailles, je ne sais pas, il faudrait que les experts nous disent s'il y avait plusieurs tailles de médailles, en tout cas c'est la même médaille, hommage à Émile Zola, hommage en or. Et cette médaille, donc là aussi, composition, j'allais dire, de réflexion sur l'accomplissement de soi, nous avons un grand tableau, grand chef-d'œuvre de Manet représentant Zola au travail. Il est maintenant, je crois, au musée d'Orsay. Et nous avons en dessous la médaille d'or, et nous avons aussi un bouquet de fleurs, et nous avons une composition par Émile Zola qui est en train de réfléchir à ce que veut dire l'accomplissement d'une vie. Et cette petite médaille, nous la retrouvons ici. Voyez-vous, ça, c'est un portrait d'Alexandrine par Émile Zola. Ici, la médaille autour du cou, c'est à nouveau la médaille d'or, elle est là, version peut-être plus courte, enfin je veux dire plus réduite, et Alexandrine porte la médaille qui est celle d'hommage aussi à Émile Zola. Alors je voudrais revenir, pour simplifier tout ça, à ces deux grands chefs-d'œuvre, celui-ci et celui-là, et réfléchir au fond de quoi s'agit-il. Il s'agit d'une méditation. Il s'agit aussi d'une méditation de quelqu'un qui a passé des étapes dans sa vie. Il y a des étapes de l'intimité, hein, c'est bien sûr la seconde famille par rapport sa vie officielle. Il y a aussi des étapes avec l'achèvement des Rouen-Macquart et les projets des villes et des évangiles. Mais je pense personnellement que ces mausolées, hein, ces deux mausolées, celui-ci et celui-là, doivent être regardés un peu comme des façons de méditer sur une autre forme d'exil, si je puis dire. C'est-à-dire que l'œuvre accomplie, est-ce qu'on n'entre pas dans un autre exil ? Et que vers quoi entre-t-on ? Et on voit que Zola, quand il n'est pas un bagarreur, comme il le sera ensuite pour défendre son œuvre, défendre le naturalisme, défendre la littérature telle qu'il l'apprécie, et bien entendu au moment de l'affaire Dreyfus, quand il n'est pas un bagarreur, Zola a peut-être des moments d'introspection méditative avec peut-être une bribe d'ennui, j'allais dire, ou de mélancolie en tout cas, et de réflexion sur soi qui n'est pas forcément heureuse et solaire, mais qui est simplement une réflexion méditative. Donc peut-être qu'il s'agit d'un exil, peut-être qu'il s'agit, en reprenant le titre d'un livre de Giono, d'un roi sans divertissement. Hein, un roi sans divertissement, bah, il cherche certains dérivatifs. Peut-être est-ce là la marque d'un roi sans divertissement. Donc pour moi, je conclue, on va rester sur Alexandrine, je conclue en pensant plusieurs choses. Premièrement, Zola est un très bon photographe. Zola est un grand bon photographe, très intéressant à analyser. Je l'ai montré avec quelques images. Deuxièmement, la signification égotiste de la photographie chez Zola est importante. Troisièmement, il a compris et il a dit des choses essentielles sur l'art photographique. Et je pense que ces photos disent aussi des choses sur lui. Et pour terminer par un petit clin d'œil, je vois qu'Alain est prêt à reprendre la parole. Voici une photo. Ah oui, il y a un dernier mausolée, et cette fois-ci sans la. Et j'allais oublier celui-là. Il est très intéressant aussi, parce que là, nous avons le pastel par Manet d'Alexandrine. Nous avons Zola qui a mis une petite photo ici. Le livre qui est là, je ne sais pas ce qu'il est, je ne sais pas ce que c'est. S'il y a des chercheurs qui peuvent trouver ce que c'est, à nouveau un bouquet de fleurs. C'est un hommage de l'époux à son épouse, et toujours avec cette position un peu d'effacement, parce que vous voyez la différence d'échelle entre, bien sûr, le visage d'Alexandrine et puis de Émile Zola, qui est en position, si je puis dire, infériorisée. Et pour terminer sur un clin d'œil, voici une photo d'Émile Zola d'Alexandrine par Émile Zola, où on la voit tirer la langue. C'est une façon de montrer qu'il avait aussi de l'humour dans sa prise de vue et dans ses photographies. Voilà ce que je voulais dire à tous et je suis à votre disposition pour parler de ces questions.
Merci beaucoup. Merci Bertrand pour cette très belle communication qui, après la communication de Mathilde Falguière, pose parfaitement le cadre de notre journée. Je crois qu'on peut avoir une discussion sur vos deux interventions. Vous avez, Bertrand, rappelé au fond tout ce qui fait l'importance, évidemment pour nous, de l'œuvre photographique de Zola. Je relis rapidement mes notes, mais tout le monde a en tête votre exposé car il était très clair. L'œil de Zola, ces rimes graphiques que vous avez évoquées et puis cette belle analyse que vous avez proposée des mausolées que vous qualifiez de chef-d'œuvre. Je vais permettre à Jean-Sébastien de lancer l'intervention de François Labadens. François Labadens ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais nous l'avons enregistré il y a quelque temps, donc nous allons l'entendre dans un enregistrement audio. Jean-Sébastien, c'est à toi.
Le siège de Leningrad, aujourd'hui à nouveau Saint-Pétersbourg, par les troupes d'Adolf Hitler.
On entend à peu près. Comment est le son ?
septembre 1941 au 27 janvier 1944. Siège épouvantable où 800 000 civils sont morts de faim ou de froid et où autant de militaires russes périssent. Pendant ce temps, un conférencier avait pris l'habitude de guider des amoureux de la peinture dans les salles du musée de l'Ermitage. Il parlait devant des chemises vides, des chefs-d'œuvre ordinairement exposés ayant été expédiés en Sibérie pour échapper au pillage de l'ennemi. C'est bien la seule fois dans l'ère stalinienne, d'ailleurs, où l'envoi en Sibérie fut une bonne chose. Ce n'est pas une scène de film, c'est un témoignage recueilli d'un survivant. Bien comme le guide de l'Ermitage, Covid oblige et aussi mon inaptitude octogénaire à utiliser les procédés actuels de transmission, je vais vous parler de photographie sans images. Mais la plupart de ces images qui sont absentes, vous pourrez les retrouver sur Internet. La photographie miroir d'époque, ceci se comprend. Et il faut peut-être que je m'explique par contre sur les dates que j'ai choisies, 1840-1902. 1840. Paris et les principales villes du monde se couvrent d'ateliers de prise de vue. C'est la conséquence du fabuleux cadeau de la France à l'humanité, intervenu l'année précédente à l'instigation de François Arago, et qui permet la libre exploitation du procédé Niepce-Daguerre. 1902, que j'ai choisi comme fin de cette époque, et la publication des images du Saint-Cerf de Turin prises en 1898 par Secondo Pia. Ces images déclenchèrent de violents débats, y compris à l'Académie des sciences en France, mais pour les croyants, le visage du Christ, près de 2000 ans après, était révélé. Miracle de la photographie. Entre ces deux dates, le daguerréotype puis la photographie inaugurent en la fixant, en la conservant, en la propageant, une vision inédite du monde, une vision qui est à la fois naturaliste et accessibiliste. Alors je passe sur l'histoire technique, comme sur la rivalité subtile et intéressante à étudier entre la peinture et ce nouveau mode de fabrication d'images. Rappelons simplement que le daguerréotype ne se duplique pas, ou du moins ne se dupliquera qu'avec la photo. Alors dès 1840, on peut de façon relativement courante conserver les traits réels de personnes encore vivantes, nées aux alentours de 1765, c'est-à-dire sous le règne de Louis XV. Le calcul est facile à faire. Et c'est le cas pour Constance Weber, la femme de Wolfgang Amadeus Mozart, dont nous avons une photo. On devrait encore moins s'étonner de pouvoir contempler le visage de Marie-Louise, seconde épouse de Napoléon Ier. Ce constat ouvre de belles perspectives de recherche d'ailleurs encore. Prenons un exemple dans la littérature. Stendhal meurt à Paris en 1842. Peut-être trouvera-t-on un jour un daguerréotype le représentant, plus naturaliste encore que son portrait par Soderbergh. Balzac, en 1842, se fera daguerréotyper pour envoyer son portrait à Madame Anska. Dès lors, toute personne, tout paysage ou décor, tout événement peut être l'objet d'images prises sur le vif. Alors les Américains voient la guerre de sécession et la conquête de l'Ouest ici. Au milieu de l'ère Meiji, les Japonais combinent tradition et modernisme et envoient aux Occidentaux des photographies déjà colorisées de la vie quotidienne du pays du soleil levant. C'était une grande spécialité à la fin du 19e des pays d'Orient, Chine ou Japon, d'envoyer comme ça des éléments fabriqués spécialement pour les Occidentaux férus de clôture. Alors, les dirigeants et les femmes en vue de tous les pays sacrifient aussi à la pose, qui à soi est souvent dans un format très très courant, qui carte de visite, leur popularité. Il faut bien songer que par exemple, le de Bordeaux, le futur et jamais Henri V, qui sera prisonnier du drapeau blanc et n'accédera pas au trône de France, n'avait pour se faire connaître que la photographie. Et ses partisans la distribuaient autant qu'ils le pouvaient. Alors, de la France, dans cette période choisie, rien n'échappe à la captation photographique. D'abord, la vie de famille, des plus modestes aux plus célèbres. Il y a, par exemple, un étonnant album, inédit encore, de la famille Ségur, montrant les petits modèles, montrant les enfants Rostopchine, où, et ceux-là sont publiés, des clichés tout à fait étonnants de la famille Toulouse-Lautrec. Mais malheureusement, il y a aussi beaucoup d'albums où l'absence de noms sous les portraits sont une catastrophe et les conduisent à finir sur les étals des vigneronniers. Il y a aussi dans l'industrie des tentatives assez extraordinaires, mais pas toujours au départ ce que l'on croit. Par exemple, le service photo de Schneider au Creusot commence uniquement pour photographier des documents. Et c'est par la suite que va se dérouler, chez Schneider comme ailleurs, l'utilisation de la photographie pour la gloire de l'entreprise. Bien sûr, on photographie les usines de l'extérieur, on photographie les machines, on photographie également des groupes d'ouvriers, malheureusement qui restent anonymes, mais qui montrent la puissance de l'entreprise. Les produits sont aussi mis en photo et on voit une photo du tsar en visite en France, regardant des canons. La photo date de 1902, si mes souvenirs sont. À côté de l'industrie, il y a la recherche scientifique, il y a des photos géologiques, des photos du ciel, des photos célestes, il y a des photos qui enregistrent des éclairs électriques, ou même, et vous le connaissez sur le plan de la physiologie, l'analyse de la locomotion humaine par Étienne Jules Marais. En médecine, les patients de Charcot, un exemple typique. Dans la question des mystères, il y a beaucoup de reportages sur Lourdes et de portraits de Bernadette Soubirou. Et puis il y a des tentatives pour photographier les fantômes. Là aussi, beaucoup de choses ont été dites et beaucoup de choses ont été montrées. Pour les voyages, eh ben, on a retrouvé récemment, vous le savez, des photos de Rimbaud prises en Abyssinie. Il avait pris l'habitude d'envoyer à sa famille quelques instantanés du pays où il s'était, on peut dire, réfugié. Dans les arts, eh bien, on connaît l'histoire de Degas, photographe avisé, qui en profite pour économiser le prix de pose des modèles. Et cela va jusqu'à l'intimité. Il y a relativement pudique, mais extrêmement narcissique, tout au long de sa vie, des photos de la Castiglione. La Castiglione était amoureuse de son corps. Elle se livrait d'ailleurs de temps en temps aussi devant ses invités à des striptease. Le père des petites filles modèles, Camille et Madeleine, qui était un diplomate important du jeu politique en Italie, a eu le privilège d'assister à de ces dénudements. Il y a aussi, et ça il est difficile d'en parler ou d'en montrer beaucoup, la photo pornographique. La photo pornographique, elle peut être plutôt assumée, mais légère, comme celle de Marie de Régnier par Pierre-Louis. La dame se dévêtait volontiers. La guerre est un sujet qui a passionné dès le départ. comme les Américains l'ont pour la guerre de sécession, des photos de la guerre de Crimée, de la guerre d'Italie, de 1870. Et le plus intéressant certainement doit être ce qu'on a comme photo en quantité très importante de la Commune. D'abord, il y a ces photomontages idéologiques d'exécution des otages. Il y a par exemple une scène totalement reconstituée de Monseigneur Darbois fusillé ou de l'exécution par les Versaillais de Rossel. Eugène Appert, qui a concocté ces images, a été très habile et parce qu'on devrait reconnaître les gens et qu'on ne le peut, ils sont morts. Quand il reconstitue la scène de l'exécution de Monseigneur Darbois, il prend une photo de loin, comme si cette photo avait été prise d'un balcon ou d'une fenêtre sans attirer l'attention. Je crois que c'est la Commune dont nous fêtons dans les semaines qui viennent le 150e anniversaire qui est l'événement majeur de ces années 70. C'est extraordinaire le nombre de photographies qui restent de cet épisode cruel. Alors bien sûr, il y a les ruines des différents monuments, il y a les fameuses photos que tout le monde connaît de la colonne Vendôme abattue, il y a des photos de groupe sur les barricades, on les connaît aussi, et surtout les effrayants clichés d'Isdéry qui montrent dans leur cercueil les fusillés. Ces photos sont, à mon avis, les plus poignantes de l'époque que j'analyse. Certaines en particulier montrent les fusillés, des jeunes femmes, des jeunes hommes, habillés comme s'ils avaient été tués dans la rue, sans d'ailleurs trace de blessure. Et puis il y a ces photos, à mon avis, les plus poignantes, où nous voyons des hommes dénudés, le linceul volontairement ouvert. Et je ne crois pas qu'il y ait d'autres images aussi cruelles, sinon cette photo rapportée de Chine 15 ou 20 ans plus tard, et qui saisissent ethnographiquement, mais avec horreur, les supplices chinois. La préfecture de police de Paris adjoint à sa notice dans le registre des clandestines une photo, par exemple, de Sarah Bernard. Et il y a bien sûr les services anthropométriques d'Alphonse Bertillon qui aligne à partir de 1979 les profils et les faces de messieurs et de dames peu recommandables. Mais même les élèves de l'école polytechnique, eux, se font photographier, mais à leurs frais, à partir de 1859, ce qui constitue aujourd'hui un extraordinaire combinoscope d'hommes parfois devenus célèbres, mais alors qu'ils étaient presque encore adolescents. La rapidité et la facilité de restitution sont des avantages majeurs de la photographie par rapport sur la peinture, mais l'absence de couleurs, car les procédés sont encore en gestation, et des temps de pause qui sont encore longs, permettent une belle résistance du dessin. Pourtant, dès 1873, des revues comme Paris Théâtre montrent des photos d'acteurs. Il y a en particulier une extraordinaire photo de Dick Appetit dans son rôle de Thérèse Raquin, et bien sûr les interprètes, au moins une dizaine d'autres pièces de Zola, mais pas dans l'œuvre théâtrale de Zola. En 1876, apparaît aussi une revue qui, sur le plan du portrait, va faire fureur, c'est la Galerie contemporaine de Ludovic Bachet. D'autant plus que ce sont des photos collées, des tirages dits photoglyptiques qui érables et qui ont été inventés par la maison Goupil. Et ceci permet de diffuser le talent de Nadar ou de Carja. La période sépia que nous évoquons lègue à l'histoire une extraordinaire banque d'images. Ensuite, dans les années 1900-1910, la carte postale, mais la carte postale avec photographie avait commencé avec l'affaire Dreyfus, est alors un vecteur de l'actualité immédiate. Parallèlement, l'impression de revues avec des trames d'impression bien maîtrisées, en tout cas dans les magazines, l'invention de linographe de 1908, tout ça va faire traverser l'image en plat des mers, relier les continents et continuer à renforcer cette fonction de miroir tant qu'est la photographie. Cela aboutira un peu après, vous le savez, à des ambitions comme celle d'Albert Kahn, qui, par la photo et par le film, voulait fixer des pratiques et des modes d'activité humaines dans le monde entier. Voilà ce qu'on peut dire et qui doit nous conduire pour chaque recherche, pour chaque problématique, quelle que soit sa matière, à nous demander quelle photographie correspond. Il y a un nombre impressionnant de banques d'images datant du 19e siècle qui commencent à s'ouvrir et qui méritent encore d'être explorées. Je voudrais ajouter quelques mots mais qui sont du domaine plutôt des questions ou des remarques d'un débat. Je me suis interdit, vous l'avez vu, de parler de la photographe, mais j'ai trois remarques. Zola n'utilise pas la photographie dans les dossiers préparatoires de ses romans. On trouve néanmoins dans le fourre-tout du dossier Nouvelle Acquisition française 1345 deux photos aériennes de Paris qui sans doute ont servi au panorama de Paris d'une page de mots. Elles sont en tout cas, et c'est certain, de Nadar. Zola aussi conseille la photographie. Quand Henri Lanos veut illustrer Lourdes, Zola lui conseille de se rendre dans la ville mariale avec un appareil photo. Bon, le résultat n'est pas très probant, mais peut-être est-ce dû au talent très limité d'Henri Lanos. Enfin, j'ai une dernière remarque qui reste peut-être aussi une énigme. Le 20 octobre 1990 à Marseille était vendu aux enchères un autoportrait de Zola en compagnie de Jeanne Roseau. Alors, cette photo de Zola, dit l'expert, éveille un doute extrêmement grand sur son authenticité. Je me demande si le talent photographique de Zola n'aurait pas fini par susciter des faux.
Voilà, je ne peux que remercier François Labanas, bien qu'il ne soit pas là pour nous écouter, mais je rappelle à tout le monde d'ailleurs que cette journée d'études sera montée ensuite et visible en rediffusion sur le site de la chaîne universitaire Canal U. Et puis, j'ajoute cette information que nous espérons tirer de cette journée d'études un livre où, en particulier, le texte de François Labanas, dont vous n'avez peut-être pas pu entendre tous les éléments, sera présenté. Je crois qu'on peut conclure cette première partie de la matinée en remerciant bien sûr ceux qui ont pris la parole, en remerciant le docteur Brigitte-Émile Zola qui nous a proposé un témoignage extrêmement émouvant, en remerciant Mathilde Falguière pour toutes les précisions qu'elle a apportées pour cette présentation qu'elle a faite du fonds photographique, et puis en remerciant aussi Bertrand Evenot qui a ouvert la réflexion sur l'analyse des photographies de Zola. Cette analyse va se poursuivre. Elle va se poursuivre cet après-midi. Je pense notamment à l'album photographique dont parlait Bertrand Evenot et que Bruno Martin va commenter cet après-midi.